L'île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc. Véronique se pencha au-dessus de la mer. À cet endroit, le renflement de la falaise avait moins de saillie, et elle vit, entre les récifs couronnés d'écume, un petit lac aux eaux dormantes, toute paisible et si profonde que l'on n'en discernait pas le fond. Elle pensa que la mort serait plus douce là que sur les récifs aux pointes aiguës. Et elle dit à Stéphane, dans un besoin subit d'en finir et de se soustraire à l'agonie trop lente, « Pourquoi attendre le dénouement? Mieux vaut mourir que cette torture. Non, non !» s'écria-t-il révolté à l'idée que Véronique pût disparaître. « Vous espérez donc ?» Jusqu'à la dernière seconde, puisqu'il s'agit de vous. Je n'espère plus. » Aucun espoir non plus ne le soutenait. Mais il eut tant voulu endormir le mal de Véronique et garder pour lui tout le poids de l'épreuve suprême. La montée continuait. La trépidation avait cessé et la pente du plancher s'accentuait, atteignant déjà le bas du guichet, à mi-hauteur de la porte. Mais il y eut comme un déclenchement brusque, un choc violent, et tout le guichet fut recouvert. Il devenait impossible de se tenir debout. Ils s'étendirent dans le sens de l'inclinaison, en s'arc-boutant des pieds sur la bande de granit. Deux secousses encore se produisirent, amenant chaque fois une poussée plus forte de l'extrémité supérieure. Le haut de la paroi du fond fut atteint, et l'énorme machine se rabattit peu à peu en suivant la voûte vers l'ouverture de la grotte. Très nettement, on pouvait voir qu'elle s'encastrerait de façon exacte dans cette ouverture et qu'elle la fermerait hermétiquement à la manière d'un pont-levis. Le roc avait été taillé pour que la funèbre besogne s'accomplît sans laisser de place au hasard. Il ne prononçait pas une parole. Les mains jointes, ils étaient résignés. Leur mort prenait le caractère d'un événement décrété par le destin. Dans les profondeurs des siècles, la machine avait été construite, puis reconstruite sans doute, réparée, mise au point, et le long des siècles, elle avait, mue par d'invisibles bourreaux, donné la mort à des coupables, à des criminels, à des innocents, à des hommes d'Armorique, de Gaule, de France ou de race étrangère. Prisonniers de guerre, moines sacrilèges, paysans persécutés, chouans, bleus, soldats de la Révolution, un à un, le monstre les avait jetés à l'abîme. Aujourd'hui, c'était leur tour. Ils n'avaient même pas cet amer soulagement que l'on trouve dans la haine et dans la fureur. Qui haïr ? Ils mouraient au milieu des ténèbres les plus épaisses, sans qu'un visage ennemi se dégageât de cette nuit implacable. Ils mouraient pour l'accomplissement d'une œuvre qu'ils ignoraient, pour faire nombre, aurait-on pu dire, et pour que fussent exécutées d'absurdes prophéties, des volontés imbéciles, comme les ordres donnés par les dieux barbares et formulés par des prêtres fanatiques. Ils étaient, chose inouïe, les victimes de quelques sacrifices expiatoires, de quelques holocaustes offerts aux divinités d'une religion sanguinaire. Le mur se dressait derrière eux. Encore quelques minutes, il serait vertical. Le dénouement approchait. Plusieurs fois, Stéphane dut retenir Véronique. Une terreur croissante troublait l'esprit de la jeune femme. Elle eût voulu se précipiter. « Je vous en prie, laissez-moi, je souffre trop. » Elle n'eut pas retrouvé son fils, que jusqu'au bout, elle fut restée maîtresse d'elle-même. Mais l'image de François la bouleversait. L'enfant devait être captif également. On devait le torturer et l'immoler, comme sa mère, sur l'autel des dieux exécrables. « Non, non, il va venir. Vous serez sauvés, je le veux, j'en suis sûr. » Elle répondait avec égarement. « Il est enfermé comme nous. » On le brûle avec des torches, on le perce à coups de flèche, on lui déchire la chair. Ah, mon pauvre petit! Il va venir, mon ami. Il vous l'a dit, rien ne peut séparer une mère et un fils qui se sont retrouvés. C'est dans la mort que nous nous sommes retrouvés. C'est la mort qui nous réunira. Et que ce soit tout de suite. Je ne veux pas qu'il souffre. La douleur était trop forte. D'un effort, elle dégagea ses mains des mains de Stéphane et fit un mouvement pour s'élancer. Mais aussitôt, elle se renversa contre le pont-levis en poussant, de même que Stéphane, un cri de stupeur. Quelque chose avait passé devant leurs yeux, puis avait disparu. Cela venait du côté gauche. « L'échelle, c'est l'échelle, n'est-ce pas ?»«
Oui, c'est François. Il est sauvé. » Il vient nous secourir.
À ce moment, le mur de supplice était presque droit. Ils frémissaient sous leurs épaules, implacables. La grotte n'existait plus derrière eux. Ils appartenaient à l'abîme, tout au plus accrochés à une étroite corniche. Véronique se pencha de nouveau. L'échelle revint, puis s'immobilisa, assujettie au moyen de ses deux crampons. En haut, au creux de l'orifice, il y avait un visage d'enfant. Et cet enfant souriait et gesticulait.
« Maman ! Maman ! Vite !»
L'appel était pressant et passionné. Les deux bras se tendaient vers le groupe. Véronique gémit.
« Ah ! C'est toi ! C'est toi, mon chéri ! Vite, maman ! Je tiens l'échelle ! Vite ! Il n'y a aucun danger !»
« Je viens, mon chéri, me voici !»
Elle avait saisi le monton le plus proche. Cette fois, aidée par Stéphane, elle n'eut pas de mal à s'établir sur le dernier échelon. Mais elle lui dit « Et vous, Stéphane ? Vous me suivez, n'est-ce pas ?»«
J'ai le temps. Hâtez-vous !»«
Non, promettez-moi !»«
Je vous le jure, hâtez-vous !»
Elle gravit 4 échelons et s'arrêta en disant «
« Vous venez, Stéphane !»
Déjà, il s'était retourné contre la falaise et avait engagé la main gauche dans une étroite fissure qui demeurait entre le pont-levis et le roc. Sa main droite atteignit l'échelle et il put poser le pied sur le barreau inférieur. Il était sauvé, lui aussi. Avec quelle allégresse Véronique franchit l'espace. Que le vide s'offrit au-dessous d'elle, est-ce que cela pouvait lui importer alors que son fils était là, qu'il l'attendait et qu'elle allait enfin le serrer contre elle.
« Me voici, me voici, me voici, mon chéri !»
Rapidement, elle engagea sa tête et ses épaules dans la fenêtre. L'enfant l'attira. Elle enjamba le rebord. Enfin, elle était auprès de son fils. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre.
« Ah, maman, est-ce possible, maman ?»
Mais elle n'avait pas refermé ses bras sur lui, qu'elle se rejeta un peu en arrière. Pourquoi ? Elle ne savait pas. Une gêne inexplicable arrêtait son effusion.
« Viens, viens !»
dit-elle en l'entraînant au plein jour de la fenêtre.
« Viens que je te regarde !»
L'enfant se laissa faire. Elle l'examina 2 ou 3 secondes, pas davantage, et tout à coup, avec un sursaut d'épouvante, proféra
« C'est donc toi ?» « C'est donc toi, l'assassin ?»
Horreur ! Elle retrouvait le visage même du monstre qui avait tué devant elle Monsieur d'Hergemont et Honorine.
« Tu me reconnais donc ?»
Au ton même de l'enfant, Véronique comprit son erreur. Celui-là n'était pas François, mais l'autre, celui qui avait joué son rôle infernal avec les vêtements habituels de François.
« Ah, tu commences à te rendre compte, madame, hein ? Ah, n'est-ce pas que tu me reconnais ?»
La figure exécrable se contractait, devenait méchante, cruelle, animée de l'expression la plus vile.
« Vorski ? Vorski ? C'est Vorski que je reconnais en toi. Et pourquoi pas ? Eh, crois-tu que je vais renier papa comme tu l'as renié ?»
« Le fils de Vorski,
Son fils ? Mon Dieu, bah oui, son fils ! Que veux-tu ? Il avait bien le droit d'avoir deux fils, ce brave homme. Moi d'abord, et puis le doux François.
Le fils de Vorski ?
Et un rude gaillard, madame, je te le jure. Digne de son papa, élevé dans les bons principes. Je te l'ai déjà montré, hein ? Mais c'est pas fini, hein ? Nous n'en sommes qu'au début. Tiens, veux-tu que je t'en donne une nouvelle preuve ? Regarde donc un peu ce nigaud de précepteur. Non, mais regarde comment ça va quand je m'en mêle.
D'un bond, il fut à la fenêtre. La tête de Stéphane apparaissait. L'enfant saisit un caillou et frappa de toutes ses forces, repoussant le fugitif. Aussitôt, Véronique courut à la fenêtre. L'échelle flottait sur la partie que l'on pouvait apercevoir du petit lac, immobile dans son cadre de récif. Rien n'indiquait l'endroit où Stéphane était tombé. Aucun remous, aucune ride. Elle appela.
« Stéphane ! Stéphane !»
Nulle réponse. Le grand silence de l'espace où la brise se tait, où la mer s'endort.
« Ah ! Misérable ! Qu'est-ce que tu as fait ? Pleure pas, la dame ! Le sieur Stéphane élevait ton fils comme une mazette. Allons, il faut rire. Et si on s'embrassait ? Veux-tu, la dame à papa ? Voyons quoi ? Tu fais une tête ? Tu me détestes donc bien ? »
Il s'approchait, les bras tendus. Vivement, elle braqua sur lui son revolver.
« Va-t'en ! Va-t'en ou je te tue comme une bête enragée ! Va-t'en ! »
La figure de l'enfant se fit encore plus sauvage. Il recula pas à pas, en grinçant.
Ah, tu me paieras ça, jolie dame. Comment ? Je vais pour t'embrasser ? Je suis plein de bons sentiments ? Et tu veux faire le coup de feu ? Tu me le paieras avec du sang, du beau sang rouge qui coule, du sang, du sang !
On eût dit que ce mot lui était agréable à prononcer. Il le répéta plusieurs fois, puis de nouveau lança un éclat de rire mauvais. Et il s'enfuit par le tunnel qui conduisait au prieuré en criant
« Le sang de ton fils, maman Véronique ! Le sang de ton François bien-aimé !»
Chapitre 10 L'évasion.
Frissonnante, indécise, Véronique écouta jusqu'à ce que le dernier pas eût retenti. Que faire ? Le meurtre de Stéphane avait détourné un instant sa pensée de François, et voilà qu'elle était reprise d'angoisse. Qu'était devenu son fils ? Devait-elle le rejoindre au prieuré et le défendre contre les dangers qui le menaçaient ?
Voyons, voyons, je perds la tête. Quoi ? Réfléchissons. Il y a quelques heures, François me parlait à travers les murs de sa prison. Car c'était bien lui alors. C'était bien François qui, la veille, saisissait ma main et la caressait de ses baisers. Oh, une mère ne se trompe pas, et je frémissais de tendresse et d'amour. Mais depuis ce matin, n'a-t-il pas quitté sa prison ?
Elle demeura songeuse, et ensuite prononça lentement :
C'est cela. Voilà ce qui s'est passé. En bas, à l'étage inférieur, Stéphane et moi, nous avons été surpris. Aussitôt, alerte. Le monstre, le fils de Vorski, est monté précisément pour surveiller François. Il a trouvé la cellule vide et, apercevant l'ouverture pratiquée, il a rampé jusqu'ici. Oui, c'est cela. Sinon, par quel chemin serait-il venu ? Arrivé ici, il a eu l'idée de courir à la fenêtre, pensant bien qu'elle donnait sur la mer et qu'elle avait été choisie pour l'évasion de François. Tout de suite, il a vu les crampons de l'échelle. Puis, se penchant, il m'a vu, moi. Il m'a reconnu, il m'a appelé. Et maintenant, il se dirige vers le prieuré où, inévitablement, il rencontrera François.